Donc ceux qui sont dans la salle, ce sont ceux qui veulent voir la suite des films, c'est ça? Très bien. Donc c'est le l'atelier donc psychothérapie de groupe, hein. On va se confier au bon Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon, frère, j'essaie de laisser plus de temps pour les questions-réponses après, parce que c'est ça qui me paraît intéressant. D'accord, oui. Ce qui serait bien, est-ce que quelqu'un peut jouer au timekeeper? On va dire, il faut vraiment que je m'arrête à 19h, hein, vraiment dernier cara, comme ça on pourra échanger, ça me paraît mieux. Hein. Merci hein, d'être draconienne. Alors, thérapie nouvelle. Hein. D'abord, si je vous demandais qu'est-ce que les thérapies nouvelles, je serais intéressé de voir votre définition. Hein. Qui sont les thérapies alternatives. Parce que quand on prend le livre de Cottereau, hein, sur les thérapies nouvelles, vous savez combien est-ce qu'il en énumère à la fin? Plus de 350. Donc inutile de vous dire que j'en connais qu'un tout petit nombre et que si vous me posez une question sur tel type de médecine ayurvédique croisée, médecine mésopotamienne, etc., j'aurais pas un avis extrêmement éclairé sur le sujet. Hein. Donc je vous propose plutôt, qu'est-ce que je me tenais comme plan de dire un petit mot sur la situation actuelle. Deuxièmement, un petit diagnostic plus général. Et on peut prendre deux exemples avec l'hypnose et la cohérence cardiaque. Hein. Après ça, on pourra en prendre d'autres. Hein. Il y en aurait beaucoup. Hein. Alors, un petit mot sur l'état actuel. Si je fais un rapide historique pour y voir clair, hein, il y a une espèce de va-et-vient intéressant géographique qui dit quelque chose de la doctrine. On sait bien que la psychiatrie, pour parler comme le grand Hélène Berger, le grand historien de la psychiatrie donc dynamique, bon, est née notamment en France, et pas seulement en France, fin 19e siècle, notamment avec le bipôle bien connu Charcot-Bernheim, dont le rôle est tellement important. On oublie Janet, c'est bien dommage, que Janet est un véritable génie, là-dessus l'ingratitude chronique de Freud nous l'a fait aussi oublier, alors qu'il y a pas mal d'idées qui lui sont données, qui viennent de lui. En tout cas, la psychiatrie, en général, donc les psychothérapies, naissent bien sûr sur le vieux continent, très clairement. Freud va occuper tout l'espace, notamment, hein, date emblématique, 1900. 1900, vous savez ce que c'est 1900, c'est Traumdeutung, donc hein, l'interprétation du rêve, donc le grand livre. Il était prêt en 1899, mais Freud a voulu que ce livre-là marque, alors que c'était erroné du point de vue calendaire, mais peu importe, marque le tournant du siècle, que ce soit le nouveau livre qui va influencer définitivement les relations. Très très clairement, hein. Freud se veut régulièrement le nouveau Faust, le nouveau Périclès, le nouveau, c'est la mythologie très importante chez lui. Ah oui, on va pas en parler, on va pas rentrer dans tout le détail sur Freud, mais donc clairement, là, ce livre-là va marquer une véritable évolution, avec aussi, comme vous savez, une régression par rapport aux thérapies mises en œuvre, par exemple par Charcot et par Bernheim, notamment l'hypnose, hein, que Freud ne réfutera jamais totalement, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est l'étiologie des pathologies, hein, et l'exploration de ces grands continents mythologiques. En tout cas, on va voir donc apparaître donc ce type d'approche psychologique très particulière qu'est la psychiatrie dynamique. Et surtout avec Freud, parce que l'école freudienne elle-même va reprendre ses intuitions avec les dissidents qu'on connaît, parce que Freud n'a jamais eu une amitié paisible. La seule amitié paisible que Freud a eue, c'est avec Lou Andreas Salomé. C'est la seule qui le fascinait. Mais toutes les autres sont terminées de façon hallucinante. Hein. Et à commencer par celle avec Wilhelm Fliess. Hein. On n'a aucune lettre. Hein. Tout était détruit. Hein. Heureusement qu'on a retrouvé les lettres par un marchand. Bon. En tout cas, donc, la psychologie, donc, l'étude même hein, de cet inconscient dynamique va naître avec Freud. Et par un événement qui est bien révélateur, qui a été préparé par le grand voyage de Freud aux États-Unis, on va passer l'Atlantique et on va arriver aux États-Unis, où là, nous allons voir apparaître un autre personnage que je crois aussi génial que Freud, même s'il est moins connu en France malheureusement, qui est Milton Erickson, ce paysan du Middle West, on n'aurait pas donné cher si on l'avait rencontré, qui est un psychiatre aussi, alors que Freud, vous savez, est un médecin, hein, c'est un médecin. En plus, il a fait la recherche, c'est pas un psychiatre, hein, contrairement à Jung, par exemple. Donc, Erickson est l'autre grand génie, hein, vraiment un génie qui a tout ouvert. Hein, c'est lui qui a préparé l'école de Palo Alto, tout ça, c'est qui et qui est un homme qui est bourré de difficultés, hein, de la dyslexie jusqu'à un problème d'audition, et surtout, il va connaître une maladie terrible, hein, qui est une polio. Si, d'un coup, j'ai un petit doute, là, j'ai pas revu. Oui, c'est ça. Qui va quasiment le paralyser intégralement, au point même qu'il va entendre le médecin dire à ses parents, il ne passera pas la nuit. Très délicat. Et il va tout faire pour réfuter cela, hein, pour refuser. Et comme tout grand thérapeute, il va être son propre laboratoire. Et il va en effet reconquérir muscle par muscle tout ce qu'il est et découvrir comment est-ce qu'en effet ça se passe entre, par exemple, il va découvrir qu'à un moment il va se retrouver en train de regarder quelque chose, il veut tourner la tête par là et d'un coup il se rend compte, oups, sa tête tourne. Il dit, mais comment ça se fait? Et il réalise qu'en fait il avait anticipé en voulant aller par là et que le fait d'anticiper, donc de se représenter, mobilisait ses capacités motrices. Et donc, comme tout vrai médecin. Un médecin, vous le savez qu'un vrai médecin, c'est quelqu'un d'extraordinairement observateur. C'est d'abord ça qui fait un médecin, cette capacité d'observation. Lui-même va observer sur lui quantité de ce qui va devenir après ça, les remèdes qu'il va mettre en place. Et il va réussir à ce point à se découvrir qu'il va guérir quasiment totalement. À la fin, il ne restera plus qu'une petite raideur qui doit lui se dire, comme ça, je me rappelle d'où je viens alors qu'il était totalement paralysé. Donc il va complètement se guérir. Et puis donc il va mettre en place une véritable méthode, alors inspirée bien sûr de la première hypnose, qui est l'hypnose avec les transes profondes que l'on connaissait à l'époque bien sûr des Mesmer, qui ne savaient pas encore que c'était l'hypnose, mais utilisée par Charcot, vous savez, quand il traitait de façon spectaculaire ses hystéries à la Salpêtrière, hein, quoi. Tout Paris venait deux fois par semaine, quoi. C'était très très impressionnant. Et les hystériques qui venaient elles-mêmes, trop heureuses de faire la grande crise d'hystérie, vous imaginez. Donc du point de vue thérapeutique, c'était un peu discutable, hein. Il amplifiait les symptômes. Hein. Et donc lui va reprendre cela, mais il va d'abord découvrir que les transes légères sont aussi efficaces que les transes profondes. Donc pas la peine de faire entrer dans une espèce de quasi-coma. Hein, il va très bien se rendre compte de ça. Et surtout, il va découvrir que le langage de l'inconscient, c'est la métaphore. Extraordinaire. Hein. Je vous donner un exemple. Un jour, il reçoit un couple qui a des difficultés sexuelles. Et Erickson, il écoute, dit, puis d'un coup, commence à leur parler comme il savait faire tout à fait. Ah, vous imaginez un bon repas. Un bon repas, vous imaginez. Mais un bon repas, ça se prépare. Hein. Il y a des préliminaires à un bon repas. Hein. Puis d'un coup, il se rend compte que les personnes commencent un petit peu trop à comprendre. Hop, il passe à autre chose, comme ça. Puis il revient. Et comme ça, il va, bien évidemment, utiliser le repas comme métaphore, ça va de soi. Et les patients sont tellement bien guéris qu'ils ne reviendront même pas. Parce que c'est un des effets de la thérapie, c'est que... et ça, c'est un effet. C'est important pour nous de le savoir, même comme médecin. Il n'y a pas de science de la santé, vous avez remarqué? Il y a une science de la maladie. Vous n'avez pas un livre qui vous explique ce que c'est que la santé, ça n'existe pas. On oublie toujours ça. Pourquoi? Parce que la santé, c'est normal. Donc vous avez des symptômes pour les maladies, mais jamais on va vous décrire cela. C'est la raison pour laquelle un patient, quand il guérit, il ne vous a aucune gratitude. Parce que c'est normal d'aller bien. La fameuse définition de Lurich qu'on a tous en mémoire, hein, la santé comme silence des organes, est une vérité très profonde. Hein. Et en thérapie, encore davantage qu'en médecine organique. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance chez les thérapeutes qui n'ont pas compris que le patient, par définition, quand il va bien, il ne va même pas vous dire qu'il va bien, il va revenir vous voir en vous alignant les symptômes qui ne sont pas encore guéris. Hein. Et dit, mais attendez, quand vous êtes venu, vous aviez un toc, vous étiez complètement agoraphobe, etc. Ah oui, non, mais ça s'est passé, ça, il n'y a plus rien. Ah oui, mais c'est quand même intéressant de savoir que vous n'avez plus ces symptômes quand même, hein, qui ne sont pas que des symptômes d'ailleurs. Donc, Erickson va appliquer cette méthode-là et aura des résultats tout à fait stupéfiants, hein, et tout à fait efficaces, avec ce qu'il caractérise, qui est très touchant, un souci extrême de s'adapter à chacun, et à la limite de faire du sur-mesure. Il a pas... Erickson, en bon paysan du Middle West, ce n'est pas un théoricien. Freud, ce qui le passionne, ce n'est pas de guérir. Ce qui le passionne, c'est de comprendre, de rentrer dans l'inconscient et d'être le Darwin de l'inconscient, c'est de connaître les lois, notamment le refoulement et le transfert qui régissent tous les phénomènes inconscients. Alors que Erickson, c'est comme dira Virginia Sapir, vous savez, celle qui va inventer les thérapies, bref, le nom même, dites-moi, quand on vous pousse dans une fosse à purin, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est que vous sachiez exactement pourquoi vous êtes tombé dedans ou en sortir le plus vite possible? Bon, vous m'avez compris, hein. Donc, allez commencer à chercher un peu les conflits. Et Erickson est exactement dans ce cadre-là. Ce qui l'intéresse, lui, c'est faire que le patient aille le mieux possible. Alors, de façon très admirable, parce qu'il va jusqu'à traiter, et Dieu sait que c'est difficile, les psychotiques. Je vais donner un exemple, parce que c'est un exemple fameux et qui dit beaucoup de choses d'Erickson. Quand il était jeune psychiatre, il y avait à l'entrée de l'hôpital un homme très gentil qui saluait tout le monde quand les personnes rentraient et après ça parlait un charabia totalement incompréhensible, ce qu'on appelle une jargonophasie. Et Erickson le voyait comme ça et bien sûr personne ne savait comment le traiter. Et un jour Erickson s'assoit à côté et écoute. Mais il écoute longuement. Et quand il rentre chez lui le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il écrit ce qu'il a entendu. Au point même qu'il découvre que petit à petit, cette personne-là a une grammaire, un vocabulaire, toute une structure linguistique dans laquelle il rentre. Et un jour, il sent qu'il a appris, il a appris le Ettingen, hein, très bien, donc il commence à parler, hein, ce langage-là, et il va s'installer à côté. Et le patient commence à lui parler son langage totalement incompréhensible, et quand il reprend son souffle, hop, Erickson lui répond dans la même langue, pendant une demi-heure. Et quand il s'arrête, hop, l'autre reprend. Très bien, ça le premier jour, puis ça pendant une semaine, puis la semaine d'après, l'autre parle ainsi, il reprend le même jeu, et introduit, le patient introduit quelques phrases normales. Et à ce moment-là, Erickson, en parallèle, lui répond de manière normale. Eh bien, en quelques semaines, le patient a de nouveau parlé totalement normalement. Il est sorti de l'hôpital, a envoyé quelques mois après une carte à Erickson dans ce fameux langage, ce néo-langage, hein, et il me dit « Ah, ça fait du bien de t'entendre parler comme ça. » Et Erickson lui répond de la même manière. Donc, vous voyez, comment est-ce qu'il l'a guéri? Ah, c'est l'empathie poussée jusqu'au bout. Il est totalement rentré dans la manière de l'autre. Ah, c'est Paul, hein. Être grec avec les Grecs, et ce qui n'empêche pas du tout que c'est une méthode tout à fait technique, précise, etc., que l'hypnose ericksonienne. Alors tout ça pour dire donc, nous avons donc deux approches totalement différentes. En traversant l'Atlantique, on voit une approche très... donc en France, pas en France, aussi la France reste quand même un pays très marqué par la psychanalyse, hein. D'un côté, nous avons des thérapies longues, davantage centrées sur la découverte de la cause, passant par la médiation du langage et avec la conviction profonde qu'au fond, on ne guérit pas vraiment, mais qu'on comprend l'origine des symptômes, ou éventuellement, on peut être un peu soulagé, mais pas toujours. On ne va pas rentrer dans tout le débat qu'il y a eu sur les TOC. C'est tout le rapport de l'INSERM, hein, qui a dû, à partir de 1000 études montrant qu'aucune psychanalyse n'a guéri des TOC, aucune. Hein, qui a été... Ça veut pas dire que la psychanalyse n'a pas de mérite et pas d'intérêt, ça je crois au contraire qu'elle en a. Il faut seulement savoir à quel niveau on situe son apport. Donc d'un côté ce type de thérapie, et de l'autre des thérapies qui sont dites brèves parce que de fait elles durent moins longtemps. Si vous prenez par exemple le docteur Méglet, oui, qui est docteur Méglet, Dominique Méglet, psychiatre, hein, toulonnais, qui lui a été formé directement par Milton Erickson aux États-Unis, il me disait qu'il voit ses patients entre 6 et maximum 10 fois. Donc rien à voir avec des comptes rendus de psychanalyse disant, et c'est tout à fait admirable pour la patience du psychanalyste, hein, 350e séance accompagnant un paranoïaque, par exemple. Ce qui est tout à fait admirable aussi, parce que vous imaginez. Hein. Bon, indépendamment de l'aspect budgétaire, ça c'est une autre question. Hein. Et donc, d'un côté, donc, vous voyez, donc, plus long, plus bref, centré sur la compréhension des causes, l'autre centré sur les résultats. L'un, avec pas forcément de résultats de guérison, d'autres de véritables guérisons, ça c'est tout à fait important, de véritables guérisons. Donc vraiment deux manières de faire. Alors, j'oserais dire, je ne suis pas assez compétent pour dire que c'est, ce que je dis est vrai, c'est un peu une hypothèse, qu'en retraversant l'Atlantique, on a une espèce de croisement. Moi, je pense à ce personnage assez fascinant qui vient de mourir, son nom qui est en train de m'échapper, qui était jésuite, puis après s'est formé par Lacan, puis était formé par Erickson. Pardon ? Oui, Roustan, absolument, François Roustan. Dont les bouquins sont tout à fait passionnants. Hein. Et je pense qu'en repassant l'Atlantique aujourd'hui, la créativité est quasiment plus de notre côté. Il y a quelque chose d'assez étonnant, une espèce de croisement. Mais on pourrait observer la même chose du point de vue philosophique. Il y a constamment ce va-et-vient avec ce métissage des cultures qui est très heureuse. Ne restons surtout pas cloisonnés. Quoi, c'est... Alors donc, les thérapies donc, nouvelles correspondent à, grosso modo un petit peu à ce que je viens de vous décrire. Alors je vais rajouter un point important, puisque nous parlons ici dans ce lieu chrétien, un point de discernement pour moi très important. Si vous tapez sur Internet hypnose, ou ce qui n'est pas une thérapie, mais un outil de connaissance de soi comme Ennéagramme, etc., si vous tapez ça sur Internet, vous allez être totalement affolé. Vont sortir le paranormal, le voyage chamanique, etc. Donc quand on voit ça, si nous sommes un petit peu informés comme chrétiens, on va se dire « Ouh là 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 là, dans quoi est-ce que je mets le doigt ? Est-ce que je risque pas de commencer à convoquer des puissances occultes ?» Et de fait, si on en parle, c'est parce qu'il y a chez nous, osons le dire, chez nous chrétiens, hein, beaucoup de peur et beaucoup d'ignorance dans ce domaine-là. Beaucoup de peur. J'entendais un responsable, un insecticide, un responsable des sectes dans un diocèse, me dire, c'est pas moi qui le disais, il a même écrit d'ailleurs, hein, « Toute énergie dont on ne connaît pas l'origine doit faire suspecter des forces occultes. » Ça me pose beaucoup de questions, une telle phrase. Alors, on va en parler avec l'hypnose, justement, à cette question-là. Vous imaginez, dire, par rapport à toutes ces médecines indiennes ou chinoises qui, justement, utilisent des méthodes dont on n'a pas forcément jusqu'au bout la compréhension de leurs mécanismes, est-ce qu'on va les suspecter parce qu'on ne connaît pas des mécanismes de type spiritisme ? Et je pense qu'on en fait chez beaucoup, surtout dans le monde pentecôtiste. C'est ce que m'avait dit Monseigneur Vernet, quand j'avais écrit le livre sur l'énéagramme, j'avais téléphoné pour dire « Mais qu'est-ce que vous en pensez, l'énéagramme ?» C'était le responsable en France des dérives sectaires. Hein. Il était allé chercher, il avait lu aussitôt le premier livre qui était sorti en 92. Aussitôt il l'avait lu, il avait sorti la fiche. Il a dit « Non, c'est neutre, c'est quoi ça, une bonne méthode, j'ai rien à en dire du point de vue théologique. » Il dit « Mais vous verrez, il ne savait pas que je fais partie du renouveau. Hein. » Il dit « Vous verrez. » Les mouvements plus pentecôtistes, les mouvements plus, elle disait aussi le renouveau, vous verrez, suspecteront. Comme aujourd'hui, vous savez qu'il y a une conférence épiscopale, je ne sais plus quel pays de l'Est, même deux conférences épiscopales des pays de l'Est, qui aujourd'hui ont une interprétation diabolisante de l'homéopathie, notamment à cause du parcours de Samuel Hahnemann, qui n'est pas tout à fait rectiligne, c'est vrai. Donc il y a encore chez nous beaucoup de peur de ce type-là par rapport à toutes ces thérapies dites alternatives. Alors, ce qui donne des verges pour se faire battre, c'est vrai que, je le répète, quand on va sur Internet, on a vraiment l'impression d'un mélange total. Alors, comment comprendre ? D'abord, comprendre pourquoi il y a ce mélange, et ensuite, quel discernement opérer ? Ça me paraît vraiment essentiel. Alors, comment le comprendre ? La raison de fond, c'est la suivante. Jamais une vision psychologique ne va sans une vision de l'homme. Jamais, ou plutôt, une pratique psychothérapique ne va sans une anthropologie. Parce qu'on a besoin d'une vision de l'homme quand on pratique. La preuve, c'est ce qui s'est passé au tournant 19e-20e siècle. Freud lui-même, bien que juif et très fier de sa judéité, était un scientiste matérialiste, athée et le revendiquait, en plus déconstruisant la foi. Alors, intéressant de voir que les psychothérapies de type dynamique, qui sont nées à cette époque-là, paraissaient intrinsèquement couplées avec cette déconstruction que Freud nous donnera, donc paraissaient liées obligatoirement à l'athéisme. Donc, c'est ce qui fait que pendant des dizaines d'années, les chrétiens ont refusé la psychanalyse. Parce que tous les ouvrages de Freud, hein, Totem et Tabou, jusqu'à l'homme Moïse et la religion monothéiste, tout était fait pour nous expliquer que, pour dire les choses de manière un peu simple, la religion chrétienne, même juive, c'est une névrose paternelle projetée en Dieu. Donc, c'est vrai qu'on avait l'impression que si nous allongeons sur le divan du psychanalyste, on devait forcément abandonner sa foi comme une espèce de névrose compensatoire. Jusqu'à ce qu'en 1936, un certain Roland Dalbiez, professeur de Paul Ricoeur, écrive un gros ouvrage en 2 volumes passionnant qui s'appelle La méthode psychanalytique et la doctrine freudienne. Un livre capital, passionnant, très bien écrit en français, qui nous offre le discernement salutaire. À savoir, par rapport à la psychanalyse, il faut distinguer d'un côté la méthode, de l'autre côté la doctrine, autrement dit l'interprétation. Quant à la méthode, rien à dire, c'est tout à fait neutre et scientifique. En l'occurrence, Dalbiez évalue la psychanalyse à partir du behaviorisme. Et on établit la validité. Par contre, par rapport à l'interprétation, c'est tout à fait idéologique. Ricoeur fera la même chose dans son grand livre sur Freud en 1965. Hein, opérera aussi un discernement, même s'il est un peu différent. Donc, là, nous avons l'outil précieux, à savoir par rapport aux thérapies nouvelles, autre est l'instrument, autre est l'interprétation. Vous me suivez? Est-ce que je suis clair? C'est vraiment capital de bien distinguer les deux, parce que sinon, on jette le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce qu'on fait le plus souvent. Alors, la seule chose, c'est qu'il y a un déplacement. Au début XXe siècle, la problématique marquée bien sûr par Freud et par le marxisme, c'était l'athéisme. Aujourd'hui, le marxisme est mort doctrinalement. Il n'est pas mort politiquement, malheureusement, mais il est mort doctrinalement. Aujourd'hui, l'ambiance n'est plus à l'athéisme. Il est au panthéisme. Donc, aujourd'hui, nous sommes marqués par tout cet orientalisme qui déboule. Donc, disons qu'il se mercantilise, accepte les contraintes de la société de marché, espèce de bouddhisme que l'on voit. On pourra reparler, par exemple, des thérapies pleine conscience aujourd'hui, ce qu'on appelle la méditation. Éventuellement, si on a des questions, on pourra en reparler. Donc, aujourd'hui, le contexte est tout à fait différent. La venue de l'Orient fait que nous sommes tentés non plus par l'athéisme, mais par le panthéisme. Vous voyez ce que c'est que le panthéisme, hein? C'est cette doctrine sur laquelle tout est Dieu, une espèce de grand tout dans lequel nous baignons avec seulement des différences de niveau d'énergie. Dieu étant l'énergie suprême avec la vibration suprême, et nous étant, la question pour nous étant de nous mettre en vibration avec le divin en nous, éventuellement avec les autres. Donc, vous voyez bien à quel point donc, ces thérapies ne sont pas du tout neutres, puisqu'elles-mêmes naissent dans ce contexte-là. Je participe encore récemment, j'ai suivi un séminaire méthode Tipeee, comme prêtre. Mais c'est vrai, quand j'entendais ceux qui étaient là, une dizaine de personnes, moi j'étais très, très intéressé et même touché. C'est souvent des ex-catholiques qui n'ont pas trouvé ce qui leur convenait chez nous. Mais on ne parle jamais de la nature, on ne parle jamais de ce qui se passe même après la mort. Ça, c'est vrai, dans nos homélies, on ne parle pas beaucoup. Et donc, très bien sûr, touché par l'encyclique Laudato aussi. Ce sont des personnes souvent qui sont très en recherche, qui se remettent en question, qui n'est pas toujours notre cas à nous, les chrétiens, et qui souvent, ayant vécu une expérience personnelle, veulent aider les autres. Et je me dis, mais où est-ce que on n'est pas présent sur ce terrain? C'est des millions de personnes en France, et on n'est pas présent sur ce terrain. On ne connaît pas, ou sinon, dès qu'ils sont très sensibles. Dès qu'on leur parle, ils sentent bien qu'il y a une rétraction. C'est comme si on rencontre un franc-maçon du Grand Orient. On aura du mal à d'abord se dire, mais c'est d'abord un frère. Ça veut dire qu'on n'a pas de discernement sur ce qu'il est. Et ils sentent tout de suite, ils disent, vous les chrétiens, vous avez pensé, c'est toutes les logiques du transhumanisme, quand vous lisez Max More et tout ça, ils disent, mais ras-le-bol des tabous. D'abord, réjouissons-nous de ce que... Et c'est vrai que nous, on a l'impression que notre première parole, c'est « ayez peur ». Ce n'est pas vraiment ce que Jean-Paul II nous a dit. Et donc, ils sentent notre peur. Ils ne sentent pas qu'on est d'abord... Est-ce que vous... Il y en avait une personne qui était là qui me parlait de ses voyages chamaniques, qui parlait avec les chameaux, etc. Alors, soit vous rigolez, soit vous dites... Mais si en plus vous avez peur, vous dites « je vais m'attraper quelque chose si je lui serre la main, etc. » Alors je pense que là, on a de nouveau à faire ce que Jésus faisait avec Zachée. Nos âmes ne sont pas poreuses. Ce qui nous rend poreux, ce sont nos orgueils. N'oublions pas, ce qui est le plus redoutable en nous, ce qui donne la prise aux démons, c'est d'abord l'orgueil. C'est pas une espèce d'influence. Bon, c'est un autre sujet, mais ça joue aussi dans notre imaginaire. Donc je dis tout ça parce que ces thérapies nouvelles, certes, sont le plus souvent aujourd'hui mélangées avec tout ça. Vous irez voir, je ne sais pas moi, spécialiste de MDR, vous allez rentrer dans son bureau, vous allez voir Bouddha, vous allez voir le Tao Te King, vous allez voir... Absolument, vous allez voir tout ça. Alors, soyons très clairs. Pour un chrétien passer du christianisme à ses philosophies de la non-dualité ou ses religions orientales, c'est une véritable régression. Mais pour ces personnes qui le plus souvent ont été éduquées dans le matérialisme, l'entrée dans le spirituel, c'est une évolution. Et le bon Dieu ne boude pas. J'appelle des intellectuels marqués par le marxisme en URSS, ils avaient découvert la foi chrétienne en découvrant la paranormalité. J'ai lu récemment la biographie d'un lieutenant de Messrine, donc pas véritablement un enfant de cœur, et pas non plus un pilier, pas non plus une grenouille de bénitier. Hein. Mais vous savez comment est-ce qu'il a rencontré Dieu ? En prison, parce qu'il a été emprisonné, en prison, des copains lui ont dit « Tiens, viens faire une séance de spiritisme ». Il a fait une séance de spiritisme. Et là, dans cette séance-là, il a parlé à son père. Il s'est dit, alors mon père est vivant. Attends, mais s'il y a une vie après la vie, c'est que Dieu existe. Si j'avais été le monnaie de la prison, je ne suis pas certain que je l'aurais encouragé à faire une séance de spiritisme. Le bon Dieu, qui a une vue largement plus large que la mienne, lui, est passé par là. Je ne suis pas dire qu'il faut être laxiste et que tout se vaut, vous voyez bien. Mais comment est-ce qu'on va aller, comme dit notre pape, aux frontières, hein, et non pas boucher a priori des voies alors que le bon Dieu est bien plus large que ça. Donc, en tout cas, ce que je suis en train de vous dire, hein, j'espère que je ne suis pas en train de vous brouiller les idées, hein, sinon vous me poserez des questions. C'est que donc, c'est normal qu'aujourd'hui il y ait cette confusion, hein, puisque le panthéisme est ce dans quoi nous baignons. Notre travail à nous chrétiens, c'est d'opérer le discernement. D'opérer le discernement entre des méthodes qui sont excellentes et qui souvent sont très validées scientifiquement, contrairement justement à la psychanalyse, et inversement, des interprétations qui ne sont absolument pas recevables, notamment avec de la doctrine réincarnationniste très présente, et surtout une volonté de pouvoir. C'est clair qu'aujourd'hui, par exemple, l'hypnose ericksonienne est récupérée par notre toute-puissance. Et de fait, elle est présentée, par exemple, si vous prenez l'hypnose de troisième génération présentée par M. Lockhart, hein, qui a beaucoup de succès, aujourd'hui, c'est clair que sa philosophie est irrecevable, et notamment, c'est de dire, mais nous allons dilater en nous quelque chose qui est divin, parce que ça fait partie du vocabulaire, et finalement, nous avons en nous une telle ressource pour guérir qu'on peut tout faire et tout transformer. On a l'impression qu'il n'y a plus de péché originel et qu'on est quasiment comme Dieu. Donc ça, c'est pas recevable. Mais vous voyez bien, distinguons les deux. Alors, deuxièmement, j'arrêterai dès que j'aurai des... Hein. Oui, ça va. Alors, quel est le fond de ces nouvelles thérapies ? Le fond de ces nouvelles thérapies, c'est l'idée selon laquelle il y a en nous des ressources d'auto-guérison. Ah, c'est passionnant, ça. Pour le dire de manière un peu trop caricaturale, hein, l'inconscient... freudien, ce que Maritain appelait l'inconscient de chair et de sang, c'est une poubelle. Pour Erikson, c'est une ressource. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si vous vous coupez, vous n'allez pas dire à votre corps « fais ça et ça pour pouvoir bien coaguler ». Votre corps sait très bien ce qu'il faut faire. Vous imaginez, si je parle comme chrétien, si dans notre corps humain, il y a tout ce qu'il faut pour guérir, notre psychisme étant encore plus vulnérable que notre corps, Dieu n'aurait pas déposé en nous des ressources pour guérir ? C'est absurde. On est vraiment fils de Descartes. On On a l'impression que le corps, lui, d'un côté, il a ses lois, mais le psychisme, il est totalement sous la mainmise de la volonté. Pas du tout. Vous me suivez? Donc ça veut dire qu'il y a donc en nous, déposé en nous, des ressources largement aussi efficaces pour totalement guérir. Moi, il y a 18 ans, quand j'avais écrit le livre « Mieux se connaître pour mieux s'aimer », je parlais de reconstruction. Et maintenant, j'utilise plus ce vocabulaire, maintenant je parle de guérison. C'est-à-dire, je ne parle pas seulement de se reconstruire. Là, j'étais bien marqué, j'étais très longtemps marqué par la psychanalyse, hein, qui je reconnais bien les mérites, mais j'avais hérité de Freud son pessimisme. Je pense qu'il y a des choses dont on ne pouvait pas guérir. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez l'EMDR, par exemple, si on veut être un peu concret, hein, donc, vous voyez bien cette thérapie par nystagmus, par mouvement des yeux. Hein. En fait, ce n'est pas seulement mouvement des yeux, c'est par mouvement alternatif. Que déjà, d'ailleurs, Erikson avait vu. Erikson avait très bien vu que lorsqu'il se balançait, ses patients guérissaient mieux. Ce génial Erikson avait quasiment tout observé, quoi, hein, étonnant. Hein, et qu'on peut utiliser pour des personnes qui sont aveugles. Donc ça montre bien que hein, c'est pas une question de mouvement d'yeux. Hein, on peut le faire, ce qu'on appelle les ailes de papillon. En mouvement alternatif, c'est aussi efficace que le mouvement des yeux. Hein. Eh bien, si vous prenez l'EMDR, donc découvert par Francine Shapiro, je vous rappelle en deux mots, hein, donc elle se balade dans un parc, elle a des soucis, elle sort du parc, mais attends, mes soucis ont disparu. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans le parc? Et elle réalise qu'elle avait simplement bougé ses yeux un certain nombre de fois, de droite à gauche. Et elle a commencé à étudier ça de manière systématique, elle fait comme on fait aux États-Unis. Merci mon Dieu, des véritables études en double aveugle, comparant, etc. Donc un vrai travail scientifique. Et s'est rendu compte que cette méthode était plus efficace que toutes les autres méthodes qu'on connaissait pour ces maladies épouvantables que sont les stress post-traumatiques. Donc vous savez très bien qu'il y a plus de malades psychologiques après une guerre et qui se suicident que de malades physiquement tués. Et malheureusement, les Américains, ils ont le matériau pour pouvoir traiter et repérer cela. Donc s'est rendu compte de ça. Il y a 6 ans, quand j'avais travaillé le MDR, il y avait déjà plus de 600 études scientifiques sur ce mouvement-là. C'est pour montrer le sérieux du travail qui est fait. Donc, extrêmement validé. Et après 60 pages de revue de toute la littérature, Francine Shapiro dit, en toute honnêteté, je peux vous faire un nombre d'hypothèses très intéressantes, mais on ne sait pas encore comment ça guérit. Alors nous, les Français, aussi, on va pas aller dans la théorie, on se dit, mais comment ça fonctionne ? Notamment, on voit bien que c'est une réharmonisation de nos cerveaux, dont on sait bien qu'ils sont latéralisés, on sait bien que ça fonctionne un peu comme le rêve, on sait bien que dans les phases de sommeil paradoxal, on a des nystagmus, etc. Donc, on peut faire 1000 hypothèses, mais elle, extrêmement pragmatique et empirique, dit non. En tout cas, ça marche véritablement. Et là, vous voyez bien que quand je vous en parle, j'ai pas besoin de faire allusion à quelques voyages chamaniques que ce soit, hein, ou shabadabada, hein, pas besoin. Donc, alors pourquoi je vous parlais de ça par rapport à l'EMD? En tout cas, c'est ça. L'idée, c'est la suivante. Donc, en effet, nous avons déposé dans notre psychisme et dans notre cerveau des moyens de totalement effacer les cicatrices induites par les traumatismes. Moi, qu'on peut dire, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle. C'est pour ça que je me suis intéressé à ces questions-là. On n'a jamais été aussi traumatisé qu'aujourd'hui. Je ne parle pas seulement des avortements. Quand on pense en France, plus de la moitié de la population sexuellement active a connu des avortements. Quasiment tout le monde aujourd'hui connaît une période de chômage, etc. Quand on voit un peu tout ce qui peut se passer aujourd'hui, on est quand même très profondément traumatisé comme jamais, hein, avec les destructions de la famille. Dieu, dans son immense providence, nous donne, au moment où on a le plus mal intérieurement, les moyens de se sortir de là. Moi, j'ai un axiome, hein, totalement antidoloriste. Il n'est jamais bon de souffrir. Hein, éviter le plus possible de souffrir. Pourquoi? Parce que ça éclabousse toujours sur les autres. Ah, sortons. C'est un des reproches que nous font toutes ces personnes d'ailleurs. Hein. Vous êtes tellement doloristes, tellement dans la culpabilité, vous les chrétiens. Et c'est vrai, quand on les entend, ça remet en question. Alors bien évidemment qu'il y a des souffrances qu'on ne peut pas éviter, à commencer par la mort de nos proches. Bien sûr qu'il y a des tristesses qui sont bonnes et nécessaires, comme le regret profondément triste, la contrition des péchés. Bien sûr, c'est totalement certain. Mais on ne parle pas de ça. On parle de tous ces traumatismes psychologiques qui nous intoxiquent à notre insu et qui altèrent tellement les relations avec les autres et qui sont des prises terrible pour le démon. Le démon n'a pas beaucoup de pouvoir, mais je peux vous dire que, comme disait le docteur Assayi, qui connaissait tellement bien, c'est le prince du déséquilibre. Il utilise chacune de nos failles. Mes amis, guérissons, de sorte que pour donner moins de prise au démon. Et arrêtons de croire que la prière suffit à tout. Ni la prière, ni la bonne volonté suffisent à guérir, du tout. Il y a des lois propres au psychisme. Et les thérapies nouvelles nous donnent les moyens de. Alors, si on prend un petit exemple, bien sûr, je vous laisse la parole. Si on prend, par exemple, si on prend l'hypnose, tout à l'heure, alors vous savez maintenant, j'imagine que vous savez même mieux que moi maintenant, alors je ne sais plus quelles sont les facs en France où on peut faire un DU d'hypnose, notamment comme moyen alternatif à l'anesthésie. C'est à Grenoble, je ne sais plus où. C'est Grenoble, hein, c'est ça. Bon, alors, l'hypnose, bien sûr, c'est hyper validé. Hein, on a plein d'études là-dessus, très sérieux. Alors, retirez de votre esprit, mes amis, le fakir des cigares du pharaon, hein, et K du livre de la jungle. Hein, parce que voilà, c'est, quand on parle d'hypnose, ou bien Mesmer sur le net, bon, c'est pas très heureux parce que ça fait vraiment une espèce d'hypnose de musical. Hein, donc, on va pas entrer dans tout le détail. Hein, l'hypnose est un état naturel. L'hypnose est un état naturel, état de conscience modifié. Même le mot fait un peu peur, là. Tous les jours, nous avons des périodes hypnotiques. Tous. Avant de dormir, mais pas seulement. Quand vous êtes devant un film qui vous passionne, bouche bée. Hein. Comment fait le pickpocket? Le pickpocket, il connaît très bien ces méthodes-là. Hein. Il attire votre attention d'un côté, hop, vous prenez l'autre. C'est le clivage hein, typique de la. Donc, c'est par exemple que on s'est rendu compte que les aiguilleurs du ciel, toutes les heures et demie, laissaient passer les avions. C'est quand même particulièrement dangereux. Hein, c'est pour ça que maintenant, on leur demande de se reposer. Hein. Parce qu'en effet, toutes les heures et demie, votre cerveau prend des vacances. C'est pour ça que dans les réunions qui durent 3 heures, ben, y a un moment où ça part dans tous les sens. Hein. C'est des lois naturelles. Donc, l'hypnose est un état totalement naturel de dissociation hein, qui permet. Donc, au psychisme lui-même, de s'auto-réparer quand on parle son langage. Donc, qu'est-ce que fait l'hypnothérapeute ? L'hypnothérapeute, il va en effet, comme on dit, dissocier, même là encore ça fait peur, parce qu'on a derrière le fantasme psychotique de la dissociation, ça n'a rien à voir avec ça, hein, de telle manière qu'il va occuper d'un côté l'inconscient avec ses résistances, pour la partie qui est libérée, lui parler son langage qui va permettre à la personne qui enfin n'est plus soumise à ses résistances, de mobiliser ses capacités à guérir. Alors, j'ai conscience de cette théorie, il faudrait faire une séance d'hypnose pour voir ce que c'est. Hein. Je ne suis pas capable de faire une séance d'hypnose, mais il faudrait faire une séance. Et moi, j'en ai bénéficié pour moi, mais c'est hallucinant. Hein. En 2-3 séances, j'ai guéri de choses très profondes. Hein. Il aurait fallu, même une psychanalyse de plusieurs années n'aurait pas servi. Donc c'est vraiment extrêmement efficace. Alors, par rapport à nos peurs, premièrement, jamais l'hypnose ne peut rentrer par effraction jusqu'à nous faire commettre des actes que nous ne voulons pas. Erikson lui-même, qui savait très bien l'objection, a tenté de le faire en induisant des comportements transgressifs, jusqu'à déshabillez-vous, tuez quelqu'un, etc. Notre conscience morale est tellement forte qu'elle l'interdit et on ne peut pas aller au-delà de ça. Donc il n'y a pas de risque d'intrusion. Donc là-dessus, sortons de l'image fausse que l'hypnothérapeute rentre dans le cerveau. Il reste sur le pourtour. Quand vous faites une séance d'hypnothérapie, en plus, le mot hypnothérapeute n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre tête. Beaucoup moins comme psychanalyste, vous lui dites les choses. Là, non. Hein, il donne les métaphores, parce que ça travaille. Ça travaille en vous. Ensuite, on s'est rendu compte que les transes légères sont aussi efficaces que les transes profondes. Or, en transe légère, vous êtes tout à fait présent, donc tout à fait conscient et libre. La seule chose, c'est que l'esprit flotte. Alors, peut-être que parmi vous, les personnes qui connaissent et qui l'expliqueront encore mieux que moi, je vous rajoute un élément intéressant. Au point de vue de l'histoire, l'hypnose est la seule thérapie pour laquelle il y a eu une détermination de la congrégation pour la doctrine de la foi, à l'époque du Saint-Office. Parce qu'en effet, comme l'hypnose a commencé à se répandre fin 19e siècle, un certain nombre de catholiques s'en sont émus. Et à l'époque, ils étaient plus nombreux. Et donc, un dossier a commencé à être monté en France, qui a monté jusqu'à Rome. On dit, attendez, les personnes qui voyaient ça, ils disaient, mais ils ont vu réapparaître les mannes du spiritisme qui étaient assez présents au 19e siècle. Ils ont dit, mais l'hypnose, au fond, c'est du spiritisme. Donc, ce sont des esprits maléfiques qui rentrent dans le cerveau. On ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, il faut surtout arrêter cela. la doctrine de la foi l'a pris très au sérieux, a demandé à des experts, hein, il y a un gros dossier hein, d'hypnotisme à la doctrine de la foi hein, qu'on peut consulter, on a des experts, et donc on regardait, on est Jésus, etc. Et finalement, après un certain temps, a rendu son jugement, et le jugement a dit, mais c'est du médical, on n'a rien à dire, et même comme ça fait du bien, on l'encourage. Voilà. Nous qui avons parfois besoin d'être rassurés. Donc là, il y a une détermination. Surtout quand on sait que beaucoup de thérapies, au fond, s'inspirent pour une part de l'hypnose. Donc là, on a une détermination du Saint-Siège par rapport à cela. Et les 58, donc, je vais te laisser, sinon on va repartir sur un autre développement. Très bien. Bon, la parole est à vous. Alors, une question là-bas, oui. Soit vous attendez le micro, soit vous y allez. Micro, micro.
Oui, je voulais déjà vous remercier d'avoir donné cet éclairage très intéressant sur l'hypnose. Moi, je voudrais savoir ce que vous pensez vraiment du Reiki et de la kinésiologie. On entend beaucoup parler de ces deux thérapies actuellement. Et moi j'entends des patients qui me disent vous inquiétez pas docteur, j'ai un kinésiologue catho, il est vraiment super. Et pareil pour le Reiki, donc je voulais savoir un peu quel était votre regard dessus.
Je n'ai pas travaillé de près, on en a parlé plusieurs fois. D'ailleurs, surtout, j'ai quelque chose sur Reiki là. Si j'avais regardé Reiki, je n'avais rien marqué qui me paraissait sentir mauvais hein, dans le Reiki. Le souvenir que j'en ai d'avoir quelque chose dessus, et quand j'avais regardé les, parce que c'est un ensemble de techniques le Reiki hein, c'est pas seulement une seule technique, et j'avais rien remarqué, c'est l'ensemble des techniques plus individuellement me paraissait pas suspecte du tout hein. Mais alors, par contre j'ai pas travaillé de près comme l'autre, c'est le souvenir que j'en ai hein.
Parce qu'en fait moi j'ai eu l'occasion de travailler avec un psychologue qui pratiquait le Reiki, et il m'expliquait donc qu'il était il avait été initié par un maître Reiki. Ça vient du Japon, c'est la force universelle vitale. Et en fait, vous êtes initié, et en fait, lui m'expliquait qu'il était devenu un canal énergétique et qu'il pouvait transmettre son énergie vitale auprès des patients. Et donc, il imposait les mains au-dessus des patients.
C'est ça. Alors là, j'arrive pas avec mon truc à retrouver. Alors, question délicate. Là, éventuellement, si tu as quelque chose à rajouter, tu rajoutes quelque chose. Hein. Tu n'hésites pas. Là encore aussi, hein, faudrait bien distinguer en effet entre ce qui relève du Reiki lui-même et ce que j'ai lu ne relève pas de ça, et de pratiques surajoutées qui en effet peuvent poser question. Et même là, quand on impose les mains, il s'agirait pour moi de savoir, il faut que j'ai tout le contexte, hein, savoir si c'est simplement imposer les mains comme cela, est-ce qu'il y a une prière derrière, quel type de dépendance éventuellement il peut être créé, etc. Savoir tout ça. Est-ce que le fait d'imposer les mains pose problème? Je sais que certains le disent. Je ne sais pas. Quand on sait, veut dire qu'un cœur émet une énergie qui équivaut à 100 watts, hein, le cerveau 25. D'ailleurs, c'est amusant de voir qu'il y a une différence. Hein. On ne sait vraiment pas trop quel type. Alors, forcément, la médiation est de type matériel, hein, quand on parle d'énergie. Mais quel type d'énergie, en effet, peut passer? Ces énergies matérielles, on en compte, c'est pas grand-chose. Par exemple, si on prend l'acupuncture, on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. On commence à avoir des études intéressantes. C'est Janssen qui raconte ça. Thierry Janssen, un auteur sérieux. Notamment, il y a le journal of Acupuncture, hein, qui est un journal vraiment intéressant. Il montre qu'aujourd'hui, on commence à découvrir qu'il y a des microtubules dans le corps humain, apparemment tout petit, hein, du genre un micro, qui ne suit absolument pas la systématisation nerveuse, lymphatique, vasculaire, qui sont des zones de moindre résistance électrique, qui peuvent être objectivées, mais il n'y a pas encore assez d'études, par des marqueurs radioactifs. Ça nous rend modestes, parce qu'après tout ça, on n'en sait rien, on n'a jamais vu. Est-ce qu'il y aurait des choses comme ça qui fonctionneraient? Attendons de voir. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. La kinésio, c'est pareil, la kinésio, j'avais regardé, j'ai rien marqué qui me semblait suspect. Maintenant, c'est toujours pareil, hein, c'est quelle pratique de la personne? Est-ce que la pratique de la personne elle-même fait appel à autre chose, notamment à des mantras, etc.? Alors là, il faudrait faire attention. Oui.
J'ai deux questions. Donc Patrick Follet d'Alençon. La première, c'est par rapport à Freud. Donc vous en avez quand même pas mal parlé. Moi, j'ai lu un livre d'une chrétienne, je pense, sur Freud, qui disait que c'était un charlatan. Mais vous en avez parlé comme d'un génie, donc je voulais un peu faire le tri là-dedans et que vous me précisiez ce que vous en pensez. Et la deuxième question, c'est par rapport donc aux thérapies, notamment orientales, dont vous avez parlé. Donc moi, je suis un regardant dans les manuels, donc je suis en train de découvrir le livre appelé par les manuels. Et à la fin, il y a une mise en garde. Alors c'est assez étonnant parce que on a tous les chapitres pour se perfectionner. Et puis à la fin, il y a une mise en garde. Et justement, la mise en garde, c'est sur toutes ces techniques de orientales, de thérapie, etc. Voilà, je m'interroge. Pourquoi dans ce livre de l'Emmanuel, on ne parle pas de se protéger de la pornographie, de tel truc, de tel problème, de telle addiction? C'est les thérapies orientales. Qu'est-ce que ça vient faire dans le livret de l'Emmanuel et par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser, quoi?
Alors, par rapport à Freud, c'est vrai qu'il y a une pratique usuelle depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle le Freud bashing, qui est bien présente. Comprenez, même le livre de Michel Onfray contre Freud, quoi. Dieu sait qu'on n'a pas une sympathie immédiate et inconditionnelle pour Michel Onfray, mais son livre, on pourrait nous dire, tiens, c'est bien, il est un peu anti-psychanalytique. Non, son livre n'est pas recevable. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques contre Freud qui n'ont pas de fondement. Alors, comme je ne sais pas celui dont vous parlez, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme ouvrage, je ne peux rien vous en dire. Mais précisément, il y a énormément de légendes freudiennes, à commencer par la toute première qui est née. On pensait que Freud avait été tripoté par sa nourrice, et quand on fait l'étude très précise de l'histoire, on se rend compte que c'est le croisement de deux faits totalement différents donnés dans les lettres et que ça correspond à rien de réel. Le meilleur ouvrage que je connaisse, c'est l'ouvrage tout récent de Roudinesco sur Freud, remarquable, très équilibré, et qui justement fait le point sur quantité de légendes antifreudiennes. Donc non, je maintiens formellement que d'un côté, Freud est un véritable génie, c'est-à-dire supérieurement intelligent et extrêmement courageux, envers et contre tous, et par ailleurs une personnalité totalement impossible, paranoïaque, avec une espèce de culte de la personnalité. On préfère le tableau clinique, c'est tout à fait inquiétant, mais malheureusement on peut être l'un et l'autre. Quand on fait des études sur les génies, un bon nombre de génies sont des personnalités très problématiques, d'Einstein jusqu'à Picasso, etc. On distingue bien entre les génies et les makers of genius, les véritables personnes qui sont admirables, ce sont ceux qui font les génies. C'est des études faites aux États-Unis, très intéressant, la différence entre les deux. Donc voilà, Freud, je pense en effet, j'aurais pas aimé le croiser, ni être traité par lui. Alors, par rapport au deuxième point, je connais pas, je serais intéressé de voir le passage dans ce livret, savoir exactement ce qui est dit par rapport à cela. Oui, je sais bien qu'il peut y avoir un certain nombre de peurs, et pas seulement dans les manuels, dans les communautés nouvelles, par rapport à cette thérapie. Je pense que d'abord, il faut les considérer une à une, pas globaliser. Et qu'ensuite, ce discernement dont je viens de vous parler mériterait d'être fait de façon beaucoup plus précise. Donc, c'est ça que, comme je ne connais pas le texte, je ne peux pas vous le dire, mais englober les thérapies brèves, je vais dire quelque chose d'un peu trop fort, mais peut-être pas complètement trop fort, ça peut être criminel. C'est se priver de moyens extraordinaires qui nous sont donnés et qui peuvent faire un bien fou. Au nom de quoi? C'est encourir une grosse responsabilité. On sont des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié de près. Quand on les questionne, moi j'ai vu telle ou telle personne dans le renouveau, et quand on leur en parle, mais elles ne connaissent pas. Et elles privent les personnes. Quand vous prenez l'hypnose aujourd'hui, quand même, on sait bien que c'est une thérapie très précieuse, et non seulement très précieuse, mais quand on pense qu'il y a une mort, sur 5000 anesthésies, il y a un mort. Or, quand on sait que l'hypnose, non seulement c'est un moyen efficace, mais il y a même un chirurgien qui s'est retiré l'appendice sous auto-hypnose, pour dire à quel point c'est efficace. Et on sait qu'il n'y a aucun effet secondaire. Se priver de cela, sans compter qu'en plus, ça coûte beaucoup moins cher que tout ce que... Donc, non, je pense que là-dessus, on est un peu léger. Moi, je vous dis ça d'autant plus facilement qu'il y a 30 ans, ça fait 38 ans que je suis dans les manuels. Et je me rappelle très bien, avant d'être prêtre, j'avais un discours contre l'homéopathie, contre tout ça, qui était un discours trop dur. Très, très radical, très, très excessif. Et ayant étudié de près un certain nombre de choses, je suis beaucoup plus nuancé. Et beaucoup plus à l'écoute. Je me rends compte que le réel est beaucoup plus riche et complet que ce que l'on veut dire. Donc je pense qu'en effet, s'il y a ça, je le regrette vraiment.
Alors, juste, j'ai à la fois une petite remarque et deux questions. La remarque, c'est de, par rapport à une nuance quand même sur le... Vous avez parlé du rapport de l'INSERM, qui a été quand même controversé par un certain nombre de méthodologistes, en particulier Bruno Falissard, qui beaucoup interrogé sur la manière dont ça a été fait. Il faut aussi se rappeler que l'INSERM, c'est derrière, il y a une idéologie un petit peu matérialiste, un petit peu scientiste aussi, et qu'on évalue toujours sur un sujet moyen qu'on essaie d'objectiver, ce qui n'existe pas en psychanalyse. Donc moi je serais beaucoup plus nuancé sur le fait qu'on puisse dire que cette étude d'INSERM puisse prouver quoi que ce soit sur des différences d'efficacité de psychothérapie. Ça c'est une première remarque, sachant que vous nous disiez très justement qu'il ne faut pas confondre la pratique et la vision anthropologique sous-jacente, et que pour l'instant les deux thérapies qui ont la vision épistémologique, anthropologique les plus cohérentes restent malgré tout la psychanalyse et l'acupuncture. On arrive vraiment à avoir une vision de l'être humain globalisée et particulièrement cohérente. Ça, c'est pour la première remarque. Pour ce qui est des questions, alors moi, je suis convaincu que ce qui soigne dans ces thérapies, et a fortiori en psychanalyse, c'est la relation. Et je me demande justement, j'étais catholique, je suis actuellement plutôt agnostique. Je suis convaincu que ce qui fonctionne justement, par exemple, dans des méthodes comme l'exorcisme, c'est pas tant quelque chose de l'ordre du surnaturel, mais c'est la médiation, donc la relation. Le médiateur qui est le prêtre exorciste qui, par une technique, qui est la médiation, va permettre à la personne qui se dit atteinte du démon de s'en sortir. Et de la même façon, je pense que le spiritisme, c'est peut-être des inconscients qui circulent à un moment donné, des effets d'influence, des effets qu'on a pu connaître, qui ont été explorés par Janet aussi, beaucoup le spiritisme, ces tables qui tournent. Voilà, moi je suis convaincu de ça.
Voilà pourquoi, pour laisser la place aux autres questions, ça veut dire que vous alliez.
Et la dernière question, vous parliez donc du
J'ai pas encore entendu de question.
La première question, c'est sur l'exorcisme. Finalement, est-ce qu'on est dans la dimension spirituelle et donc surnaturelle, est-ce qu'on est dans la dimension psychologique? Et c'est la première. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le démon, donc d'anthropologiser. De rendre finalement le mal de l'anthropologie. Est-ce que c'est pas une autre façon de dire que c'est de la souffrance psychique?
C'est
de la souffrance psychique. Et qu'une pensée qui serait mauvaise, en fait.
Parce que vous voyez, c'est vaste débat. Vous voyez, même après ce gros dossier d'Isère, il y a toujours, en effet, deux options. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, en effet, du débat. En effet, c'est thérapie comportementale, cognitiviste contre psychanalyse. Ce qui m'intéresse dans ce que j'ai pu te remarquer par rapport à tout ce que vous dites, c'est toute la part d'interprétation. Vous construisez en effet des choses qui paraissent en effet pour l'exorcisme. Est-ce que ça ne serait pas... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les thérapies brèves, c'est qu'on n'est pas dans l'interprétation, on est dans le factuel. On va pas construire une théorie. En effet, c'est possible que ce soit l'Oedipe qui explique que c'est possible. En l'occurrence, le mode d'argumentation, je parle plan épistémologique. L'herméneutique même qui est derrière est une herméneutique qui, pour moi, en effet, demande quels sont ses critères de validité. Pour autant, je la trouve intéressante et cohérente, mais je pose cette question-là. On va prendre un exemple concret. On sait que pour les TOC, on a 0% de réussite en psychanalyse. On sait qu'on a des réussites, c'est quand même 2 ou 3% de la population. Oui, mais de fait, on a quand même des résultats qui montrent que véritablement, sans déplacement de symptômes, on a des personnes qui ont véritablement guéri des années après. Donc on a quand même tout ça. Et comme on sait qu'en psychanalyse, on ne peut faire aucune objectivation, puisque chaque cas est singulier, on est quasiment dans le non-réfutable, au sens popérien du terme. Alors, l'exorcisme, c'est autre chose. Vraiment, pour moi, je ne mélange pas l'exorcisme avec les autres thérapies. La pratique même de l'exorcisme nous montre des choses tout à fait étonnantes que rien au plan psychique ne peut expliquer. Prenons un exemple. Quand un exorciste, sans rien dire à la personne, va mettre dans la main du possédé une custode avec la présence réelle. Ah, ça brûle! je ne vois pas quelle construction psychique pourrait lui faire connaître cela. Et ça, ces exemples et d'autres, bon, on va entendre ça, mais c'est pour dire qu'il y a des faits qui sont totalement inexplicables du point de vue simplement psychique lui-même. Il y a des faits surnaturels. Mais naturellement, vu l'autre bord, on peut. Alors, mais on pourra en parler, on pourra continuer à en parler. Comment ? Oui ? Oui. Bien sûr, c'est sur la famille mystique, bien sûr. C'est... Alors, non, aujourd'hui l'Église est tout à fait différente, ça c'est important de noter, hein, bien sûr. Le bouquin de Michel Le Sarto est beaucoup marqué. Aujourd'hui, les critères donnés par le code de droit canonique disent qu'il n'y a plus de signe pathognomonique d'exorcisme, hein, de possession, pardon. C'est très important. Ah, mais sauf que ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose qui est connu depuis plus de 30 ans. Donc c'est pas nouveau ce que je suis en train de dire. Là-dessus, l'Église a tout à fait accepté qu'il n'y a pas de signes, notamment les trois signes, le parler en langue étrangère, la force humaine, etc. Tout ça, l'Église sait très bien que ça peut être reconstruit psychiquement. Le seul critère absolu de possession, c'est quoi ? C'est l'exorcisme. Donc c'est extrêmement clair dans la doctrine de l'Église, là-dessus. Donc dans ce sens-là, elle reconnaît tout à fait ce que vous dites. Par contre, il faudrait expliquer statistiquement comment ça se fait que l'exorcisme est aussi efficace et pas le reste. Et ça, c'est que c'est la pratique qui le montre.
Je voulais donner une précision concernant la kinésiologie. Tu disais que vous n'y voyez rien de mal. C'est quand même...
Je ne connais pas trop non plus.
Oui,
hein.
Moi, je connais un petit peu. C'est quand même une interrogation dont le bras répond par oui ou par non, qui se lève, il descend. Enfin, c'est quand même pas très net comme... C'est un petit peu une écriture automatique.
C'est
la kinésiologie. Hein.
Oui, tout à fait. D'abord, l'écriture automatique, tu sais que pour une part, bon, on pense que faisait Breton,
enfin, etc.
Ça reste de l'inconscient. Hein. Donc ça, l'écriture automatique, c'est pas du spiritisme, hein, faut être bien clair. Mais là, la question, en effet, de la résistance musculaire qui est régulièrement utilisée, par exemple, de thérapie nouvelle, tu vois, en l'occurrence, ça correspond à une baisse de tonus musculaire, point. Il faut que je vois parce que je ne connais pas. Très bien.
Moi, je voulais savoir ce que vous pensiez des coupeurs de feu qu'on utilise de plus en plus lors de radiothérapie, choses comme ça, ou de brûlure.
Oui, j'ai lu des choses dessus. Je n'ai pas un avis suffisamment clair pour pouvoir... Non, c'est un peu différent. Je vois un ensemble de choses. Oui, tout à fait. Non, pour moi, c'est là, on sort du cadre des thérapies nouvelles, hein, donc c'est un peu différent. Donc, c'est important de pas. Hein. Oui.
Juste un petit mot.
C'est vraiment important. Les thérapies nouvelles, c'est vraiment quelque chose de sérieux, de documenté. C'est-à-dire, on n'est pas de l'ordre de pratiques qui actuellement sont des pratiques sauvages, qui correspondent peut-être à des choses très réelles. Hein. Moi, les pratiques chamaniques me paraissent aussi extrêmement. Un chaman, c'est pas un sorcier. Arrêtons de confondre. Depuis le grand livre de Mircea Eliade, on sait bien que l'un n'est pas l'autre. Par contre, c'est des pratiques qui demanderaient être objectivées, etc.
Excuse-moi, Pascal, juste un petit mot, parce qu'il me paraît quand même important pour pouvoir aussi discerner de façon juste, de distinguer l'hypnose ericksonienne d'autres formes d'hypnose. Je pense que c'est aussi important de le signaler pour justement ne pas tomber dans une forme de confusion.
Oui, explique-moi un peu.
En ce sens où l'hypnose ericksonienne est justement prouvée aussi scientifiquement, et effectivement, comme tu l'as dit très justement, on n'est pas dans une, comme ça peut l'être dans certaines autres formes d'hypnose, ça peut être intrusif, il peut y avoir une volonté aussi de puissance.
Tu peux m'expliquer par autre forme d'hypnose, je ne vois pas ce que c'est.
Il me semble qu'il peut y avoir effectivement des hypnoses ou d'autres formes de thérapie nouvelles, mais qui justement ne le sont plus parce qu'elles sont très spirituelles. Et finalement, tu l'as dit très justement toi aussi, avec une sorte de panthéisme où on pourrait être partout et finalement nulle part. Et je pense quand même que, mais tu l'as dit aussi très justement, il y a une différence entre ceux effectivement qui sont en chemin et dans une recherche de vérité pour lequel il n'y a pas de conséquences néfaste, autre chose effectivement de quelqu'un qui est investi dans une foi chrétienne et qui peut-être se perdrait dans ce grand tout alors que il a tout ce qu'il faut d'une certaine...
Ce que je dis tout à l'heure sur la distinction entre l'outil, la méthode elle-même et l'interprétation, est-ce que ça répond pas à ce que tu dis? Parce que quand tu me parles d'autres types d'hypnose, franchement je vois pas ce que c'est.
Je...
Parce que tu peux avoir, en effet, chez Lockhart, il parle de nouvelle hypnose. Hein, il distingue trois âges de l'hypnose. Et il parle de nouvelle hypnose en disant que c'est tout à fait nouveau. En fait, ce qui est nouveau, c'est son interprétation New Age, qui n'est pas recevable. Par contre, tout l'aspect technique ne relève que de l'hypnose ericksonienne. Il n'y a absolument rien de nouveau.
Et c'est là où, justement, il faut savoir discerner ce qui peut être parfois de l'ordre d'une intrusion de New Age. Enfin de,
alors, mais toi, le critère que je donnais, toi, ce n'est pas de l'ordre de l'intrusion, c'est de l'ordre de l'interprétation. Toi, Lockhart, quand tu donnes des cours d'hypnose, il est remarquable. C'est un très bon pédagogue, excellent dans la technique. Moi, je connais des personnes qui ont suivi, tu vois, qui n'ont, la communauté de l'Emmanuel, tu vois, qui n'ont rien perdu de leur foi, composé le discernement, tu vois, qui ont retenu ses instruments pédagogiques et techniques, tu vois, et rien retenu son interprétation. C'est pour ça que quand tu dis, tu vois, je connais d'autres formes d'hypnose, moi, je dirais non. Je connais la même hypnose avec d'autres interprétations. Là, je dis oui.
Oui, mais c'est, là, mais c'est toute la différence, et c'est là où il peut y avoir parfois des soucis, justement, en fait. Dans la mesure où il y a des courants New Age qui peuvent aussi s'infiltrer dedans.
Alors, quand on parle de cette distinction que je te fais, hein, oui. Donc, en disant, quand tu vas voir un hypnothérapeute, tu vas d'avoir rencontré quelqu'un de compétent, il ne va pas commencer à te dire un peu ses théories. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que tu as tel symptôme et tu veux en guérir. Je suis agoraphobe, comment est-ce que je peux faire? Et lui, il ne va pas te faire sa théorie. Il va immédiatement utiliser les outils qu'il a.
Donc, tu vois. Après, je distinguerai encore une fois hypnose, oui. Et aussi... ce qui serait de l'ordre d'un spiritualisme aussi sans Dieu, et qui, comme d'ailleurs peut l'être le Reiki, justement, et pour lequel, pour certaines personnes, il peut y avoir du coup, de fait, une forme, il faut le dire, d'influence néfaste. Et moi, je cite simplement, parce que je suis de l'école du Carmel, Sainte-Thérèse d'Avila, elle dit, à son époque, il y avait beaucoup d'illuminati qui, justement, se perdaient dans un grand tout. Ils étaient partout et nulle part. Et Thérèse d'Avila dit, eh bien, nous avons le Christ. Commençons par le Christ, continuons par le Christ et terminons par le Christ. Et lorsqu'on est avec le Christ, on est sûr d'être en Dieu. Mmh. Et avec ce christocentrisme, eh bien, on est à l'abri. Mmh. En revanche... il y a force est de constater qu'il y a certains courants, on ne sait pas du tout où on est. Avec un risque, du coup, eh bien, comme au temps de Thérèse d'Avila, d'une forme de dérive illuminée.
Oui. Je vois bien ce que tu veux dire. Alors, on va être concret, parce qu'en effet, dit comme ça en général, c'est ce que je dis tout à l'heure, au fond. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Dans le concret, parce que dans le concret, tu vois, soit en effet, je vais me former, et là, en effet, dans la formation, je vais tout entendre. Et à commencer par ceux qui sont là, et de fait, tu pourras avoir peur. Et de fait, un certain nombre de personnes sont dans cette confusion, même si pour certains, c'est une véritable évolution, avec une vraie générosité, je le répète. Là-dessus, pour nous chrétiens, où est-ce que l'on est? Tu parles du Carmel. Où est l'équivalent de la revue carmélitaine, du travail extraordinaire discernement qu'elle a fait avec Freud dans les années 60? Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est présente sur ce lieu-là? Elle n'y est pas. Ça, je regrette beaucoup. Et deuxièmement, autre chose, tu vois la rencontre avec un thérapeute. Et là, le thérapeute, lui... il utilise simplement sa technique, tu pars avec tes symptômes, tu arrives avec tes symptômes et tu pars éventuellement sans tes symptômes. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il n'est pas là en train de te bassiner sa théorie qui ne t'intéresse pas. C'est comme, mutatisme tandis, c'est comme quand tu vas voir un médecin. Qu'il soit athée ou croyant, ça ne change rien au fait qu'il soit un bon médecin ou un moins bon médecin. C'est du même ordre. Et de fait, parce qu'il faut que tu connais dans le concret ce que c'est qu'une thérapie, tu vois. Quand tu, en thérapie, tu vas te rendre compte que la personne elle-même, eh ben, finalement... si c'est un vrai thérapeute, tu vois, en plus, il n'y a pas d'intrusion, hein, il va partir de tes symptômes, utiliser le moyen, et, tu vois, et le moyen est neutre. Il est neutre.
Auquel je vous déconseille fortement toute forme d'imposition des mains, quelle qu'elle soit. C'est bien clair. Après, c'est autre chose que la thérapie, que ce que tu as décrit. On a parlé tout à l'heure d'imposition des mains. Ne mettez pas le doigt là-dedans.
Oui. Oui, de fait, c'est franchement, l'imposition des mains, pour moi, c'est rarissime. Hein. J'en ai très rarement entendu parler. Hein. Très rarement. En tout cas, dans les thérapies qu'on connaît... Oui, Reiki, alors Reiki... Décidément... Je vais reprendre.
Vous savez,
il ne dit pas que ça soit les signes.
Oui. Est-ce que pour les praticiens que nous sommes et le désir que l'on a d'aider nos patients, tu pourrais de manière très pratique en fait, nous donner un peu les indications justement dans ces deux techniques en particulier que tu as parlé, donc l'hypnose, le MDR, voir en fait, les indications en fait, un petit peu alors, pratiques.
La limite, c'est vrai que j'ai me renvoyé, ça va être dans le bouquin Ressources pour guérir, je prends le temps de faire la liste des indications. Ça va être soit qu'il y a, on le sait bien, tous les troubles fonctionnels, ça va être soit que ça marche très bien, mais aussi un certain nombre de maladies organiques. Il y a aussi des contre-indications pour des maladies psychiques graves. Mais la liste est assez impressionnante et ne cesse de s'allonger avec des études de plus en plus précises. Donc ça varie selon chaque type de thérapie. En tout cas, en effet, l'hypnose est vraiment une bonne méthode, l'hypnose ericksonienne, le MDR sans aucun doute. Moi, ce que j'étudie aussi, qui était la cohérence cardiaque remarquable introduite par Servan Schreiber, est vraiment validée scientifiquement, tout à fait passionnante. Moi, j'aime bien la méthode Tipeee. Méditation pleine conscience n'est pas se présente pas véritablement comme une thérapie, mais comme un apport. Mindfulness, c'est quand même plus de 1000 études qui le valident. C'est très impressionnant. Alors le mot est trompeur pour nous. On parle de méditation. Le problème, c'est que pour nous, méditation, ça évoque prière. Or que la méditation pleine conscience, c'est absolument pas de la prière. C'est un exercice de contrôle cérébral. À la limite, c'est du vitos, sauf que c'est du vitos validé. Pour vitos, que nous les chrétiens en aiment beaucoup, vous n'avez aujourd'hui encore aucune étude qui valide vitos. Et quand ça va une étude à Grenoble, pour la première fois, on va en faire une. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Alors, comme c'est un médecin protestant suisse, on est content, on se dit c'est bien. Alors que méthode pleine conscience, c'est vraiment du sérieux, c'est extrêmement étudié. Moi, j'ai lu avec passion le grand bouquin de Christophe André, médité jour après jour. Je pense aussi à côté de l'hypnose et de. Donc, quel était l'autre outil intéressant? L'EFT. Emotional Freedom Techniques, qui est une bonne sur les points de sortie d'acupuncture, donc l'acupression, remarquable aussi, validée. Donc non, il y a plein de choses, Ça répond un peu à ta question, mais là, il faudrait prendre chacune une après l'autre et que tu repères pour chacune toutes les indications. En tout cas, comme tu sais que dans les cabinets, il y a de plus en plus de fonctionnels et de plus en plus de souffrances, ces outils-là sont très précieux, toi. Moi qui suis un hyper-émotif, la cohérence cardiaque, pour moi, c'est très précieux. Ça permet de réguler. Ah oui, c'est un bon outil. Oui. Bonsoir. Ah pardon, comme vous avez une concurrence déloyale.
Bonsoir père, ce n'est pas vraiment une nouvelle thérapie, mais qu'est-ce que vous pensez de Viktor Frankl?
Oui, remarquable. Oui. C'est le troisième Viennois, après Freud et Adler. Non, c'est pas vraiment trop peu connu quand vous pensez que les œuvres complètes sont toujours pas traduites en français. Elles sont toutes traduites en italien. D'ailleurs, c'est par un prêtre. Non, c'est remarquable. Et là, l'intérêt, je pense, à ceux qui aiment la psychanalyse, c'est que Frankl n'est pas réactif comme le sont trop. Lui-même, qui a bien connu la psychanalyse freudienne, l'a intégré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, où la souffrance liée au manque de science, de sens est tellement présente, je crois qu'on gagnerait beaucoup. J'oserais dire, mais les psychiatres pourraient le dire mieux que moi, je pense que quantité de dépressions, en tout cas un certain nombre de dépressions, sont liées à une absence de sens et certainement pas les médicaments qui vont les traiter. Et donc dans ce sens-là, je pense que Frankl est vraiment à découvrir de près. De près.
On va se permettre une dernière question.
Alors, bonjour Stéphane, chez Radiologue. C'est juste un petit témoignage concret. Nous, on utilise dans notre équipe l'hypnose depuis très longtemps pour faire passer des IRM à des patients claustrophobes. Ça marche extrêmement bien. Des gens qui montent pas dans un avion, pas dans un ascenseur, pas dans à l'arrière d'une voiture, enfin le vrai claustro, passe son IRM, passe 20 minutes ou une demi-heure dans la machine. Et vous savez que la machine d'IRM est assez confinée. Et c'est vraiment une technique qu'on éprouve. Donc on a plusieurs manipulatrices qui sont formées à ça et ça marche vraiment très bien.
Et c'est extrêmement durable.
Et c'est durable et et ça rend vraiment service à nos patients.
On va s'arrêter là puisqu'il est 7h30.